Nous sommes entrés dans un état de crise écologique durable et planétaire. Hervé Kampf, extrait de Comment les riches détruisent la planète. Le mode de production capitaliste et le modèle de société qui en découle est la cause directe de la crise écologique majeure à laquelle nous sommes confrontés depuis 3 ou 4 générations. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous nous heurtons aux limites de la biosphère et nous subissons les conséquences de plus en plus directes du saccage systématique des sols, de l'air, de l'eau et de toutes les espèces vivantes. Le milieu naturel a atteint le maximum de corruption compatible avec la survie des humains et, développement durable oblige, nous allons droit dans le mur. L'homme a perdu l'aptitude à prévoir et à prévenir, il finira par détruire la Terre, Albert Schweitzer. Nous en sommes donc arrivés à un niveau de pollution globale et sans retour en arrière possible, caractérisé par des changements climatiques irréversibles dus au réchauffement de l'atmosphère lié à l'activité humaine, à une érosion de la biodiversité telle que l'on peut parler de sixième crise d'extinction pour désigner la disparition accélérée d'espèces à notre époque. La cinquième crise d'extinction, il y a 65 millions d'années, avait vu la disparition des dinosaures. Enfin, nous sommes arrivés à un stade de contamination chimique généralisée de notre environnement, et ce en moins de 60 ans. Du Xanax dans les rivières, jusqu'aux cadavres qui se décomposent moins vite à cause des conservateurs que l'on ingurgite tout au long de nos vies de consommateurs via l'alimentation moderne. Déjà 50 ans que tout ça, nous le savons, et qu'en dehors des théories fumeuses servant la bonne conscience politique et le marketing, à coup de développement durable et de culpabilisation individuelle, rien ne se passe et tout s'accélère. Et comme dans notre émission « La lutte, c'est classe », on va parler de tout ça de manière pessimiste et sexy. Voici l'abécédaire de la DER des DER. D comme désertification. Depuis plus de 30 ans, les ressources naturelles des régions arides se dégradent en raison des pressions des humains sur leur milieu naturel et des crises climatiques qui se sont manifestées dans diverses régions du monde. Cette dégradation de la nature entraîne un processus de désertification de plusieurs centaines de millions d'hectares sur tous les continents et conduit à des situations de pauvreté pour des centaines de millions de personnes. Et ce phénomène de détérioration de la qualité des sols est constaté à l'échelle de la planète entière. Selon la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification, 250 millions de personnes sont directement affectées par la désertification et environ 1 milliard de personnes dans plus de 100 pays sont menacées par ce phénomène. Voici la définition donnée par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992. Le terme « désertification » désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Mais le désert avance partout, même s'il n'est pas toujours de sable. Comme le dit Patrick Desplat, vigneron travaillant en biodynamie, en France, nous vivons encore sur nos lauriers avec notre couche arable magnifique, notre diversité de terroirs, notre richesse en élevage, céréaliculture, viticulture. Mais on ne doit pas rêver, la désertification nous guette et on y va tout droit. Même si le sens commun veut que l'on comprenne la désertification comme étant une avancée naturelle du désert sur les terres arables, liée aux variations climatiques à long terme que connaît la planète, ce que recouvre aujourd'hui ce terme est une véritable mort des sols qui touche tous les pays et pas seulement les pays arides. La désertification est un processus plus ou moins irréversible de dégradation de la couverture végétale, des sols et des ressources en eau. Il aboutit à une diminution ou à une destruction du potentiel biologique des terres et de leur capacité à supporter les populations qui y vivent. C'est un processus complexe, mais les changements climatiques y ont bien moins d'incidence que les activités humaines, qui sont clairement identifiées comme étant à la source du phénomène. L'accroissement de la population et l'urbanisation galopante ont entraîné une demande alimentaire croissante et grignotée sur les terres agricoles et sauvages. Rien qu'aux États-Unis, 30 000 km² de terres agricoles ont été perdus entre 1967 et 1975 du fait de l'urbanisation, de la construction de routes et de l'exploitation minière. Or, l'accroissement de la production agricole s'est fait au prix d'une pression accrue sur l'espace, les ressources naturelles et l'environnement, en l'absence de règles d'accès aux ressources conduisant à des pratiques agricoles et pastorales inadaptées et néfastes. Agriculture intensive et monoculture, utilisation massive d'intrants chimiques et aujourd'hui développement des OGM, surpâturage, extension du défrichement pour accroître les surfaces agricoles, prélèvement excessif de bois de chauffe, déforestation, combiné au changement climatique actuel, exerce des actions sur le couvert végétal et sur les sols, amenant des risques importants de dégradation. La satisfaction de besoins pressants à court terme associés à des crises climatiques, démographiques et économiques imprévues, la course au profit et une vision du monde portée par des technocrates arrivistes accentuent l'impact de ces pratiques et conduisent au processus de désertification. La désertification est caractérisée par l'appauvrissement des sols et la baisse du rendement agricole. La dégradation des sols suit toujours le même processus. Le point de départ est sa mort biologique. Ce phénomène s'est accéléré ces 50 dernières années avec l'intensification de l'agriculture et l'utilisation massive d'intrants chimiques, en cessant d'apporter de la matière organique et en accélérant sa disparition par des labours profonds, par l'irrigation et par l'excès d'azote, on supprime l'alimentation de la faune du sol, ce qui la fait disparaître. Cette disparition est accélérée par les pesticides qui tuent tout ce petit monde. Or, le sol est le milieu le plus riche de la planète au niveau biologique. 90% des organismes vivants s'y trouvent et, lorsqu'il est en bon état, on y dénombre plus de 1 milliard de bactéries par gramme de terre et 1 à 4 tonnes de vers de terre par hectare. La diminution de la biomasse et de sa restitution au sol entraîne des pertes progressives de matière organique qui constituent un des éléments déterminants des propriétés des sols. La stabilité structurelle et la porosité décroissent. De ce fait, l'érosion s'accroît entraînant une destruction progressive du sol. Les conséquences sur la fertilité, chute de la capacité d'échange et des éléments disponibles, et sur le bilan hydrique, augmentation du ruissellement, baisse de la réserve en eau disponible pour les plantes, modification du régime hydrique et des échanges avec l'atmosphère, aridification sont très importantes. Elles auront en retour un effet sur la végétation et la production. Une spirale de dégradation est constituée qui peut conduire à une désertification irréversible. Aujourd'hui, la France perd en moyenne 40 tonnes de sol par hectare et par an. Le sol disparaît, le patrimoine s'en va et l'humain, pourtant responsable de ce désastre, accuse la pluie, le vent ou le soleil. En région aride, l'érosion des sols et la mobilisation des sables entraînent les problèmes d'ensablement des zones voisines, des infrastructures et parfois des villes. La dégradation des bassins versants conduit à des problèmes de crues, d'inondations et de comblement de barrages. Enfin, la destruction des conditions de vie et des ressources des populations accélère et aggrave les problèmes de pauvreté et de migration, d'insécurité alimentaire et les risques de conflits. Selon l'ONU, entre 1997 et 2020, quelque 60 millions de personnes quitteront les zones désertifiées de l'Afrique subsaharienne pour gagner le Maghreb et l'Europe. Les régions les plus menacées par la désertification sont l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Elles occupent 40% des terres disponibles, soit 5,2 milliards sur 13 milliards d'hectares. L'Afrique contient 37% des zones arides, l'Asie 33% et enfin l'Australie 14%. Mais c'est toute la planète qui voit ses sols mourir. Ainsi, dans un article intitulé « La désertification s'empare des sols fertiles », l'auteur Paul Molga tente d'informer sur un phénomène dont il est difficile de mesurer l'ampleur. La surexploitation agricole est sur le point de stériliser les terres cultivables. Près de 10 millions d'hectares de désert sont produits chaque année par l'homme. Plus de 200 000 km², une superficie équivalente à celle du Royaume-Uni, s'érodent chaque année dans le monde. Ces 100 dernières années, 1 milliard d'hectares de terres fertiles ont été dégradés sous l'effet de l'activité humaine. À ce rythme, nous manquerons sans doute de blé avant de manquer de pétrole, craint le microbiologiste Claude Bourguignon. Depuis la création de son laboratoire d'analyse des sols en 1989, le chercheur a examiné la composition physique, chimique et organique de plusieurs milliers de terres cultivées sur la planète. Et son constat est alarmiste. Non seulement le désert et l'érosion gagnent, mais partout les équilibres s'effondrent, l'activité biologique recule et les sols meurent. Nous sommes en train de détruire notre base de vie. En un demi-siècle, note l'Institut International Soil Reference and Information Center, le surpâturage et la déforestation conjuguées auraient appauvri 12,8 millions de kilomètres carrés de sol en les privant notamment de la matière organique qui lui apportait le couvert végétal et en supprimant les obstacles à l'érosion. En outre, la mauvaise gestion agricole aurait endommagé 5,5 millions de kilomètres carrés et la collecte de bois de feu 1,4 million. L'intensité de l'érosion augmente d'une tonne à l'hectare par an et ce sont 2,5 millions de kilomètres carrés de terres fertiles qui pourraient devenir improductives d'ici à 2050. La famine sera telle qu'elle pourrait bien réguler l'espèce humaine, pronostique Claude Bourguignon. Déjà, 925 millions de personnes ne mangent pas à leur faim à travers le monde et leur nombre augmente de 4 millions par an. À l'heure du sacro-saint productivisme agricole, c'est un comble. Ainsi, l'agriculture intensive détruit 10 millions d'hectares chaque année que l'on essaye de compenser par la destruction de 15 millions d'hectares de forêts tropicales, en même temps que la population augmente de 70 millions par an. L'épiderme de la planète, épais de 30 cm en moyenne, est un formidable réacteur biologique qui abrite d'intenses échanges biologiques et physico-chimiques. C'est le milieu le plus riche de notre environnement, explique le chercheur. C'est aussi l'un des plus fragiles, constitué au terme d'un processus d'altération et de dégradation lente de la roche. C'est un système sensible et une ressource difficilement renouvelable. Il se dégrade quand l'érosion entraîne plus de terre et de matière vers les rivières ou les mers que ce que la nature produit. Les pratiques agricoles sont les principales responsables de ces ravages, accuse le microbiologiste. Il souligne la gravité des phénomènes de tassement des sols causés notamment par les labours, qui modifient l'activité biologique de la terre et la circulation de l'eau. En retournant profondément le sol, les labours perturbent la vie souterraine et les échanges biochimiques. Les gaz carboniques s'échappent du sol, la matière organique qui s'en nourrit se réduit, la faune disparaît, et avec elle l'ascenseur qui brasse les nutriments et minéraux, qui lie les sols. L'humus est balayé par les eaux, l'argile se met en mouvement et la terre devient une simple boue gluante. Le processus peut être extrêmement rapide. Au Brésil, par exemple, la dégradation des sols a pris moins de 4 siècles avec une érosion qui a été multipliée par 4 ces 50 dernières années et des pertes atteignant jusqu'à 3 milliards de tonnes de terre par an, selon les estimations les plus pessimistes. À l'échelle mondiale, les rendements ont augmenté de 3% entre 1950 et 1984, de 1% la décennie suivante et stagnent ou se réduisent depuis. Tandis que les lobbies de l'agrochimie veulent nous faire croire que sans produits chimiques, point de salut, alors que ce sont entre autres les pesticides et les engrais qui épuisent les sols. On écoute tout de suite Claude Bourguignon.
Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau... Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, il tient le blé, il est bien. Sauf que si, il se casse la figure, alors... Parce que comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, les blés faisaient 1m50, maintenant ils font 60 cm, parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Pour... Alors ces hormones, il faut avorter les arbres qu'il y a autour, enfin c'est... fait disparaître toute la flore, parce que ça gêne les représentations des dicotylédones. Enfin c'est un espèce de monde complètement strange, je crois. Mais les gens ne le savent pas, donc... devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, c'était plein de... Il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité dans la... Un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. C'est-à-dire, il y a une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Ah non, on n'a pas été entendu, puisqu'on est avec Lydia, on a quitté l'INRA. Nous, on s'est mis à notre compte. Puis c'est quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement, on nous a demandé de nous taire. Donc on a quitté l'Institut et on s'est mis à notre compte parce que on estimait que notre devoir de scientifique, c'était quand même d'alerter le monde agricole que la voie qui était choisie n'était pas la bonne ne permettrait pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Hein. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Hein. Donc si vous tuez, on en a tué 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. Hein. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritives pour nous. Alors que maintenant, les gens, enfin, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an. Il y a quand même des questions à se poser. Quoi. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Alors le problème, c'est qu'effectivement, l'argumentation, c'est oui, mais regardez, ils vivent de plus en plus longtemps. Bien sûr, les gens qui en ce moment ont 80 ans n'ont pas connu l'agriculture chimique avant l'âge de 50 ans, puisque c'est apparu aux années 70. Donc, jusqu'à 50 ans, ils ont mangé. Moi, je suis encore gamin du lait de vache qui avait du goût de lait de vache. Ça avait vraiment le goût de lait de vache, c'est pas le lait de maintenant. Donc c'est tellement récent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne connaîtra les résultats réels et on s'inquiète puisque vous prenez la population d'enfants à l'heure actuelle en Europe, 17% des enfants sont obèses, donc on est en droit de se poser des questions sur cette qualité alimentaire. Le sol, c'est une vraie éponge. Donc, si je le gère mal, il est compact, il est serré, il se referme. Si je laisse la faune le retravailler, il va se souffler. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt sur un sol, vous avez vu le côté moelleux du sol forestier. Hein, parce qu'en fait, il est aéré par la faune. Alors que le sol qui a été labouré, maltraité, il est complètement compacté, complètement resserré sur lui-même. Alors, quand il va pleuvoir sur un sol resserré, l'eau ne va pas pouvoir rentrer. Puis c'est l'érosion. Mais c'est plus facile d'accuser la pluie d'être responsable de l'érosion, des inondations, que de dire que c'est un système agricole qui a provoqué, hein, puisque les inondations que nous avons en ce moment, hein, depuis 20 ans, nous traversons les années les plus sèches depuis 3000 ans dans l'histoire de l'Europe, et jamais il y a eu autant d'inondations. C'est-à-dire qu'on a inventé, avec l'agriculture intensive, les inondations en période sèche, ce qui est très fort, quoi. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir jusqu'où, à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire pour le moment, on a détruit 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent, est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher ? Est-ce que c'est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en comparaison de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, puis les gens attendent, disent, ah, peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter, quoi.
Le processus n'est peut-être pas irréversible. Il faut réapprendre à cultiver la terre sans l'éroder. Cela n'a jamais été fait à grande échelle. Mais ce pourrait être le challenge du troisième millénaire, pense Claude Bourguignon. Il faudra pour cela une révolution touchant les quatre piliers de l'agronomie. Le travail du sol, l'usage des pesticides, des engrais et la génétique. Pêle-mêle, le microbiologiste préconise par exemple l'usage de semis directs favorisant les plantations en surface, la réhabilitation des haies, l'amendement des sols dégradés avec des légumineuses de couverture pour relancer l'activité biologique, ou encore l'adjonction de bois fragmentés comme compost organique. Quelle que soit la gravité de la situation, nous disposons des connaissances et des pratiques ajustées à la mise en œuvre d'un renouveau des sols. L'alternative est déjà là. Pas besoin de l'inventer, sinon inventer les pratiques culturelles et sociales qui la feront partager au plus grand nombre. Et vous pouvez retrouver Lydia et Claude Bourguignon, biologistes et ingénieurs agronomes, fondateurs du laboratoire indépendant de recherche et d'expertise en biologie des sols, sur le site Les Renseignements Généreux. Ils donnent vraiment envie de rouler une pelle à un ver de terre.